Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui lier patrimoine, histoire, peinture, objets d'art, architecture, jardin historique, paysage, ruralité. Je m'arrête là. On trouve ici, c'est-à-dire où nous sommes, vous et moi, beaucoup d'éléments très divers qui retrouvent leur cohérence grâce à cet endroit dont le nom est très connu. Il s'agit du château de Bussy-Rabutin. J'aurais eu également envie de débuter cette présentation en disant « Voici un endroit comme dans les grands magasins parisiens où il se passe toujours quelque chose. » En effet, comme ceci sera expliqué, les atouts de ce site sont multiples, bien évidemment à cause de son histoire, mais aussi grâce à ceux qui s'y emploient pour le valoriser. Pour nous expliquer tout cela, je vais demander à son administrateur François-Xavier Verger de nous en tracer les lignes, les plus passionnantes, et nous dire à quelles nouveautés nous pouvons encore nous attendre. Bonjour François-Xavier.
Bonjour Gérard.
Merci de nous accueillir dans un lieu aussi prestigieux, pour ne pas dire fabuleux. Sans être une fable, c'est une très belle histoire à laquelle vous allez nous faire participer.
Nous sommes ici au château de Bussy-Rabutin. C'est un château fort des XIIe et XIVe siècles qui a été transformé plusieurs fois. À la Renaissance, la famille propriétaire a fait venir des artistes d'Italie et on a ainsi dans la cour des galeries Renaissance remarquables. En 1601, ce sont les Rabutin qui achètent la baronnie de Bussy-le-Grand, qui accolent ainsi leur nom, Bussy-Rabutin. Et les grands-parents de Roger de Bussy-Rabutin construisent la demeure dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire ce logis classique, comme on le faisait sous le règne d'Henri IV, et ont contribué à le décorer. Mais le décor principal, c'est le comte Roger de Bussy-Rabutin, celui que nous allons rencontrer, qu'il a créé. Ce sont des décors de peinture. Ce château est connu en particulier pour ses portraits, ses très nombreux portraits.
C'était un homme important, il faisait partie de la cour ou pas, parce qu'ici on est un peu loin de Versailles.
Par exemple. Est loin de la cour. Alors le voici, Roger de Bussy-Rabutin, et sur le cadre, il est indiqué lieutenant général du roi. C'est un de ses grades, et précisément son grade militaire le plus haut, c'est maître de camp général de la cavalerie légère. C'est-à-dire qu'il était un des plus hauts gradés des armées françaises, n'était plus haut que lui que les maréchaux. Et on le voit ici avec sa cuirasse et son panache blanc. C'est bien un officier général que l'on montre dans la fierté de sa fonction et de sa naissance. C'est ce qui caractérise aussi Roger de Bussy-Rabutin, c'est la fierté de ses origines. Il sait qu'il est né d'une famille de très grande noblesse. Et ce qui le caractérise également, outre ses faits guerriers, c'est évidemment son activité d'auteur. On va en parler au fil de notre découverte, mais il est d'une très grande culture, élève des jésuites à Autun, puis au collège de Clermont à Paris, le futur collège Louis le Grand. Il a une culture des antiques très importante. Il traduit le latin et le grec pour s'amuser au fil des journées. Quand il ne combat pas, il écrit.
C'était donc un grand personnage. Mais le village ici n'est quand même pas un grand village. Alors pourquoi se réfugie-t-il ici pendant ses heures hors service, alors voilà. Qu'en fait, il pourrait être tout simplement
à la cour. Alors la cour, ce n'est pas encore complètement Versailles, dans sa jeunesse en tout cas. D'accord. Ça le devient progressivement. Il passe énormément de temps à la guerre, effectivement, tous les ans, depuis 14 ans. Depuis qu'il a 14 ans, il est à la guerre. Et c'est la guerre de 30 ans, notamment, qui occupera une grande partie des cours européennes. Et quand il n'est pas à la guerre, il est auprès des dames. Et quand il est auprès des dames, il cherche à faire des bons mots, des jeux de mots. Il cherche à les distraire, et en particulier sa maîtresse, Madame de Montglat. Il lui écrit un ouvrage, un petit roman épistolaire qu'on appelle « L'histoire amoureuse des Gaules ». C'est une parodie d'un certain nombre de genres, du portrait, que l'on connaît bien avec La Bruyère, par exemple, du roman épistolaire. Il se moque, mais vraiment avec beaucoup de cynisme et d'esprit.
Et peut-être de finesse aussi.
Et une très grande finesse. Il se moque des mœurs des dames de la cour entourant Louis XIV. Et ça fâche. Ouais. Parce que bien sûr, ça ne devait pas être publié, mais un manuscrit circule. Et celui-ci finit par être publié, le roi est au courant, et condamne Bussy-Rabutin par une lettre de cachet à être enfermé à la Bastille. Il y passe plus d'un an, et ce n'est que parce qu'on craint qu'il meure qu'il en sort, Et il est autorisé à se faire soigner et à retourner ensuite dans ses propriétés, à Autun, dans divers châteaux de la région, et ici, à Bussy-le-Grand. Donc, Bussy est le propriétaire d'un certain nombre de domaines. Celui-ci en est un parmi d'autres, mais c'est ici qu'il a mis ce décor si particulier qui est le témoin de son exil.
Mais il aurait pu, devant son imprudence, se retrouver un peu comme le masque de fer, non ?
Il aurait pu rester en prison plus longtemps, mais peut-être que le risque qu'il représentait ne le justifiait pas.
Et il avait des atouts alors à la cour ?
Bien sûr. Pour le justifier, oui. Il était un des plus grands officiers, donc naturellement il était dans l'entourage immédiat du roi. Oui. Mais il était aussi très apprécié par un certain nombre de grands aristocrates et de grands militaires. Et puis, on peut dire aussi qu'il devait aussi certainement agacer, notamment les Condés, qui sont gouverneurs de Bourgogne. Bussy n'a pas choisi les Condés pendant la Fronde, donc il est resté fidèle au roi, ce qui était très bien pour le roi, mais le grand Condé s'en est froissé. Et puis, un autre officier qui n'a pas trouvé grâce auprès de Bussy-Rabutin, c'est Turenne, grand Turenne, a écrit un mot très juste peut-être sur Bussy-Rabutin. Bussy-Rabutin est le meilleur d'entre nous tous pour les chansons.
C'était un peu rude.
C'était un peu rude, c'est-à-dire qu'effectivement Bussy-Rabutin a composé des parodies de chansons sur des airs connus et ces parodies ont vraiment contribué à causer son exil. Il a véritablement agacé le roi.
Mais il a quand même été sauvé par quelqu'un, j'imagine, parce qu'il y a eu d'autres cas où c'était beaucoup plus douloureux, me semble-t-il.
Alors, Bussy-Rabutin a été sauvé par le fait qu'il ne représentait aucun danger pour le roi. Ah, il était simplement un de ses grands officiers, un de ses bons officiers, mais que ça ne pouvait pas avoir de conséquences. Donc, il n'a pas été puni au-delà. Ce n'était quand même qu'un texte dont on n'était pas complètement certain qu'il l'avait écrit.
Et qui alors a réalisé ces magnifiques intérieurs dont on voit ici la première salle ?
Cette pièce, c'est la salle des devises. C'est un des lieux les plus intéressants pour la découverte du château de Bussy-Rabutin, car elle conserve des décors précieux. On a plusieurs registres. Le premier, ce sont les devises. Donc, ce sont des phrases, des images qui sont associées et qui expliquent une situation ou expriment un sentiment. Par exemple, celui avec l'escargot, je me replie sur moi-même. Celui avec le cadran solaire, si mes miras, mes miranes. Si le soleil me regarde, tous me regardent. Si le roi soleil me regarde, tous me regardent. Mes miras, mes miranes. Si le soleil ne me regarde plus, tout le monde m'abandonne.
Sous-entendu, le voilà. Roi soleil, bien
voilà,
évidemment.
Exactement, et c'est bien la représentation que l'on voit ici avec le roi soleil. Voilà. Le soleil, donc avec un visage comme celui du roi soleil. On voit bien que donc, tout cela a effectivement des sens immédiats et des sens cachés. On a également des décors alchimiques par-ci, par-là. Voilà. Donc c'est particulièrement intéressant. Et au-dessus, comme vous le remarquiez, eh bien, nous avons un certain nombre de représentations de lieux, de châteaux, de résidences plutôt royales ou des grands princes. Donc on passe effectivement de Villers-Cotterêts, le château des Orléans, à Annette, le château de la favorite royale, mais on voit aussi Vincennes avant la destruction des tours, Saint-Germain-en-Laye avant la destruction du château. Enfin, c'est un endroit très intéressant pour découvrir le patrimoine tel qu'il était.
C'est le diaporama de l'époque, quoi.
Finalement. C'est un panorama de l'époque, voilà, un diaporama de l'époque, voilà.
Et il est resté à Bussy-Rabutin jusqu'à la fin de ses jours. Il a été vraiment mis à l'index en permanence et il n'a pas eu de rémission.
Si, il y a eu une sorte de rédemption. Enfin, pour répondre précisément, il a été exilé en 1666 et il a été pendant 17 ans. C'est-à-dire qu'il a été autorisé à reparaître à la cour à partir des années 1680, 83 exactement, et il est mort 10 ans plus tard. Donc il a pu vivre une dizaine d'années tout en étant autorisé à paraître à la cour, mais véritablement la cour qu'il a connue, cette cour de l'époque de Louis XIII, cette cour de la jeunesse, de l'enfance de Louis XIV, où il avait des aventures, des opportunités incroyables. Cette cour s'est complètement rangée une fois que Louis XIV a développé son règne personnel. Et donc tout cela est désormais l'étiquette, et Bussy ne s'y retrouve pas du tout. Il n'est pas à l'aise dans cet environnement où tout est ritualisé, et il préfère retourner vivre dans sa campagne.
Bien, est-ce que nous passons à une autre salle ?
Mais volontiers, si nous allions voir la salle des hommes de guerre.
Nous sommes aujourd'hui au château de Bussy-Rabutin, accueilli par François-Xavier Verger, qui en est l'administrateur au sein du Centre des monuments nationaux.
Bussy-Rabutin s'inscrit dans une lignée et avec pour objectif de perpétuer la lignée. Donc, il épouse une de ses cousines alors qu'ils ont l'un et l'autre autour de 20 ans, mais elle meurt en couche. Et donc, Bussy se trouve veuf à 25 ou 30 ans. Il en est très malheureux. Il cherche à contracter une nouvelle alliance pour avoir enfin un fils et prolonger sa famille. Donc, il se marie une dizaine d'années plus tard avec une autre de ses cousines, Madame de Rouville. Elle lui donne des filles et deux fils.
Ensuite, il a eu une descendance, petits-enfants, enfin, ça s'est prolongé, parce qu'on n'entend plus trop parler.
Bien sûr. Bussy Rabutin a eu deux fils, un l'aîné qui est devenu son successeur, officier également, et puis un deuxième qu'il a donné à l'Église, comme ça se faisait à l'époque. Donc son deuxième fils est devenu abbé, puis évêque de Luçon. Son fils n'a pas eu de descendance mâle, donc le nom ne s'est pas perpétué grâce à ses enfants à lui. Par contre, parmi ses filles, il y a eu des enfants. Et par exemple, sa fille Louise, son aînée, a épousé le marquis de Coligny.
Célèbre nom.
Voilà.
Et ici, tous les portraits que l'on voit, d'abord, je pense que nos auditeurs ne doivent pas avoir une telle galerie de portraits chez eux. Elle est absolument impressionnante. Ce sont des amis, des connaissances. Ça fait partie de son entourage. Comment ça a été constitué ?
Cette pièce ici, c'est ce qu'on appelle la salle des hommes de guerre. Le salon des hommes de guerre, c'est une antichambre. C'est une pièce sur laquelle il y a deux étages de tableaux qui se touchent. Donc il y a 68 tableaux représentant les plus grands capitaines de tous les temps. Nous commençons au Moyen-Âge avec les grands capitaines de la guerre de Cent Ans, du Guesclin, Lahire, Xaintrailles, donc ces grands capitaines de Charles V ou de l'époque de Jeanne d'Arc. Puis on passe au chevalier Bayard. On continue avec le connétable de Bourbon, on va rencontrer Anne de Montmorency, le grand connétable, on continue avec le maréchal de Brissac, les ducs de Guise, vous voyez, on est sur les grands capitaines de tous les temps en France, mais également, vous voyez qu'on a le duc d'Amalfi, Piccolomini, vous voyez qu'on a Bernard de Saxe-Weimar, qu'on a Jean de Werth, Jean Sobieski. Donc on a également, sur un autre registre, les Suédois, les Polonais, les Italiens, les armées de l'empereur, autant que celles de ses ennemis.
Et à l'époque, c'était courant ou c'est exceptionnel ?
C'est assez rare. Bussy a fait venir ici des gravures qu'il a ensuite fait peindre. Donc ce sont des peintres de la région qui ont peint tous ces tableaux-là, d'après des gravures donc, de peintres importants. Et de l'autre côté, on est beaucoup moins lointain. On est désormais plutôt dans les armées françaises, et en particulier sur le niveau bas, qui s'achève avec un autre portrait de Bussy lui-même, eh bien on a ceux qui ont porté son grade avant lui. Alors on retrouve un certain nombre de personnages bien connus. D'abord, on a, à gauche, vous voyez qu'on a le duc de Joyeuse, on a toujours Turenne, on a au-dessus le brave Bussy, celui que l'on connaît grâce à Dumas dans La Dame de Montsoreau. Et puis ici, on a tous les maîtres de camp généraux de la cavalerie légère, Montigny, Saint-Aignan, La Trémouille, voilà. Donc toute une série de grands officiers des armées d'Henri IV, de Louis XIII et de Louis XIV jeune. Et donc on voit chacun avec son visage de grand guerrier, cette gravité. Alors c'est assez amusant parce qu'on voit aussi des personnages qui n'avaient vraiment pas de reconnaissance en France, notamment Concino Concini, le maréchal d'Ancre, assassiné sur ordre de Louis XIII dans la cour du Louvre. C'est assez amusant de voir que Bussy l'a indiqué parmi les grands hommes de guerre. Voilà. Alors ce qui est intéressant dans cette galerie, comme dans les autres pièces du château, c'est que chaque tableau a une légende qui a été composée par Bussy lui-même. Alors soit c'est simplement son nom, son titre et son grade, soit ce sont des phrases qui indiquent ses principaux combats.
Et on a gardé de lui un certain nombre de poèmes, de livres,
de Bussy ?
De Bussy, oui.
Alors Bussy Rabutin est un auteur. Je propose que l'on étudie son œuvre dans la salle, le salon doré, où il y a des extraits de ses livres sur les murs.
Nous vous suivons.
Allons-y. En traversant la chambre de Bussy, nous changeons d'environnement. Après les hommes de guerre, nous sommes parmi les dames. Sur les murs de cette pièce, de cette chambre, dans laquelle il y a un grand lit à baldaquin avec des très belles tentures, nous avons des peintures d'un certain nombre de favorites royales.
des rois précédents Louis XIV. Donc on commence au Moyen-Âge avec Agnès Sorel, on continue avec les favorites des Valois, et puis bien sûr d'Henri IV, jusqu'à Louis XIV. Mais il y a quelques portraits qui ne sont pas des favorites royales, c'est les portraits des dames de sa famille. Par exemple, devant moi se trouve le portrait de Madame de Sévigné, qui s'appelle Marie de Rabutin Chantal, donc qui est descendante de la branche aînée des Rabutin, branche aînée qui s'est éteinte avec elle, puisqu'elle n'avait pas d'homme. Eh oui. Son père est mort au siège de La Rochelle alors qu'elle était enfant. Et donc, c'est la branche de Roger de Bussy, Rabutin, qui est devenue la branche aînée. Et précisément, c'est Roger lui-même, puisque son père, ses frères sont tous morts avant lui. Et lui, le cadet, s'est retrouvé donc à porter le nom et à le transmettre. Voici donc Madame de Sévigné. On a un deuxième tableau d'elle là-bas, à gauche.
On est assuré de la vraisemblance du portrait.
Ah oui, c'est bien elle. Regardez ici, on la reconnaît bien avec ses yeux, sa bouche, ses cheveux, sa coiffure. C'est Madame de Sévigné jeune. Et à côté, on retrouve Mademoiselle de Sévigné, donc Madame de Grignan, fille. Donc la fille, c'est à elle que Madame de Sévigné a adressé un très grand nombre de ses lettres, l'aide de Madame de Sévigné, à la comtesse de Grignan, sa fille. Donc voici Madame de Grignan. Et donc ce qui est amusant, c'est que Bussy avait dit que Madame de Sévigné était la plus belle dame de France et que Madame, sa fille, était la plus belle demoiselle de France. Donc nous avons ici la plus belle dame et la plus belle demoiselle. Et à gauche, nous avons Madame de Bussy-Rabutin numéro 2, Louise de Rouville.
Et qui était alors
leur cousine.
Leur cousine,
d'accord. Oui, c'est les cousines par les Rabutin.
Il y a bien une ressemblance quand même entre la mère et la fille.
Oui.
Mais on a quand même l'impression qu'elles sont au même âge, ou à peu de choses près.
Oui, sans doute. Oui, il est un peu triché. Allez, je vous propose maintenant d'aller dans le salon doré, salle la plus belle du château.
Et on a une idée des peintres qui ont exercé ici pour ce genre de portrait. On connaît les noms.
Alors oui, nous connaissons les noms des peintres, des tableaux qui ont été envoyés à Bussy-Rabutin. Par exemple, dans cette salle où nous sommes entourés, cette salle circulaire, il y a des tableaux sur 3 étages, dans un décor de boiserie reproduisant des faux marbres. En fait, ce sont des faux marbres. Ici, nous savons que les peintures ont été peintes à Paris, dans les ateliers des peintres de portraits de la cour. Par exemple, on a plusieurs tableaux qui sont faits par les cousins Beaubrun. C'est cette dynastie de peintres si importante. Donc ces tableaux, celui-ci par exemple, est de Beaubrun. Voilà. Donc ces tableaux, ce sont Bussy-Rabutin au centre, qui a été peint en impérator, qui est représenté avec une cuirasse de général romain, portant son bâton de commandement, un sabre. Et derrière lui, au second plan, on voit une citadelle assiégée. Donc c'est très intéressant, on est à l'époque de la construction bastionnée que Vauban va développer. Donc on voit bien que Bussy est un officier qui a servi pour des défenses et des assauts de citadelles. Et puis autour de lui, il n'y a pas un seul homme, il n'y a que des dames. Et ces dames bénéficient d'un portrait en pied. Elles sont très belles, elles portent leurs bijoux, elles ont les belles robes de la cour. Aucune dame n'est habillée pareil que l'autre. Et à chaque tableau, il y a un texte, un commentaire. Donc par exemple, Marie de Beauvoir, femme de Nicolas de Choiseul, duc de Praslin, jolie, vive, fort éclairée et particulièrement sur les défauts d'autrui. Grande ménagère de son amitié, mais ne ménageant rien pour ceux à qui elle la donne. Par exemple, cette phrase-là nous montre que Bussy a commenté l'amitié qu'il avait pour cette dame avec des mots qui sont parfois un peu taquins.
Un peu quelques coups de patte quand même.
Voilà, on a senti qu'il avait envie un peu de la griffer. Par exemple, à côté
Est-ce
d'elle...
Est-ce qu'il a été conduit éventuellement?
On peut le supposer. Oui, celle qui est à côté de Madame de Beauvoir, c'est Madame de Beaune. Et celle-ci, c'est la plus belle si elle n'eût été la plus infidèle. Voilà. Ou celle-ci, Madame Catherine d'Angenne. La plus belle femme de son temps, mais moins fameuse pour sa beauté que pour l'usage qu'elle en fit. Vous voyez, on voit bien qu'à chaque fois, Bussy a trouvé des mots...
Ce n'était pas une tournure d'esprit, c'était de l'esprit.
C'était des mots d'esprit pour désigner ses amis. Il a voulu qu'elles soient autour de lui.
dans cette salle, mais parfois l'esprit ne manquait pas d'une certaine méchanceté. Et puis au-dessus, donc au troisième étage de cette galerie de peinture, ce sont les portraits des rois de la cour au moment, de Bussy. Donc on a les rois Louis XIII, Louis XIV, leurs épouses, Anne d'Autriche, Marie-Thérèse d'Autriche, et puis les grands ministres, à savoir donc le cardinal de Richelieu et le cardinal Mazarin. Et puis on a les frères des rois, donc Gaston d'Orléans, Philippe d'Orléans. Mais ceci serait un décor très simple si Bussy ne l'avait pas un peu compliqué en adjoignant dans cette pièce un certain nombre de décors issus de l'Antiquité. Nous trouvons ici, par exemple, des décors des métamorphoses d'Ovide. Donc ce décor de l'Antiquité où on voit des scènes d'amour essentiellement avec les phrases des fameuses devises et des fameuses maximes, pardon, d'amour de Bussy-Rabutin. Et puis au dernier étage, ce sont les saisons, les quatre saisons, et ce sont à chaque fois des membres de la famille de Bussy. Par exemple, le printemps, tout en fleurs et en légèreté, c'est sa première épouse. L'été, c'est sa deuxième épouse avec les fruits, c'est qui lui a donné des enfants. Et puis les autres saisons, l'automne et l'hiver, ce sont ses parents et grands-parents. Donc à chaque fois, chacun est représenté avec son blason, et puis pour les hommes, des symboles guerriers, puisque son père, son grand-père étaient tous des officiers.
Évidemment, la réalisation n'est pas de lui, mais toutes les idées sont de lui.
Ce qui est particulièrement riche dans cette pièce, c'est que, voilà, habituellement, les décors ont pu évoluer au fil des modes. Celui-ci, parce que les propriétaires du château, les enfants Rabutin, puis les successeurs pendant deux siècles, ont compris que c'était vraiment précieux. Ils l'ont gardé, restauré, complété, pour que l'on voit véritablement un décor datant de Louis XIV, où tout a été fait par Roger de Bussy-Rabutin.
Et on a quand même l'avantage et la chance de voir que la Révolution n'a rien abîmé.
La Révolution a abîmé, mais les propriétaires du XIXe ont réussi à restaurer ce qui avait été, ou pillé ou abîmé. Par exemple, au XIXe siècle, il manquait un portrait, celui de Madame de Montmorency, donc duchesse de Châtillon, c'est-à-dire duchesse de Coligny. Eh bien, le comte de Sarcus, qui était propriétaire au XIXe siècle, a réussi à trouver un autre portrait de la même personne pour rejoindre la galerie. Donc, vous voyez, on a subi des dégradations, mais au fil des siècles, elles ont pu être corrigées. Et c'est ce que nous faisons, nous aussi, d'ailleurs, aujourd'hui, avec un grand chantier de restauration. Le château connaît un chantier depuis un an et demi et il va s'arrêter en avril 2023 avec la restauration de l'aile Sarcus.
Sarcus, ça veut dire que c'est une liaison avec les Romains, avec, je ne sais pas, moi je connais Spartacus, Brutus.
Alors, c'est peut-être un héritage. Alors, le fait que nous soyons dans l'enceinte de d'Alésia ne nous donne pas forcément d'héritage romain dans ce titre-là. La famille de Sarcus est une famille originaire de Picardie, d'une seigneurie qui s'appelle Sarcus. C'est une ville qui existe aujourd'hui encore. Elle avait un château à Sarcus, et ce château d'ailleurs qui ressemble à s'y méprendre au château de Bussy, parce que c'était pareil, un château rectangulaire, quatre tours médiévales, une galerie Renaissance, a été dégradé ou détruit à la Révolution, ce qui fait que les Sarcus n'ont plus de fief et n'ont plus de château, tant et si bien qu'à la Restauration, les Sarcus ont acheté ce château ici pour s'installer. Cette famille donc a possédé le château pendant pratiquement un siècle, le 19e siècle et le début du 20e siècle. Et cette famille a contribué à conserver le château et ses collections. Et quand il y avait un vide, la famille Sarcus a su trouver des œuvres équivalentes pour nous permettre de retrouver l'esprit de Bussy-Rabutin dans le décor. Un héritage impressionnant.
Et aujourd'hui, j'imagine que vous avez beaucoup de visiteurs, bien sûr.
30 000 environ.
Ah, c'est pas mal, ça.
Oui, c'est bien.
Ouais, c'est bien.
On aimerait en avoir plus.
Et peut-être qu'après l'émission, vous en aurez davantage. Je le souhaite pour vous.
Je le souhaite.
Et l'aile Sarcus, ça peut se visiter ?
À partir du 6 avril 2023, l'aile Sarcus sera entièrement ouverte avec l'appartement de vie du château, c'est-à-dire le lieu, le salon, la salle à manger, meublé d'époque, le couvert sera la table sera dressée pour un repas de poisson,
Ah oui, le 6 avril, nous serons encore en carême, sans doute, pour un repas de poisson. Donc, on aura des couverts magnifiques des siècles passés. Les cuisines ont été restaurées et seront elles-mêmes remeublées. Donc, on a 3 pièces de cuisine, le four à pain, donc, qui ont été remeublées également. Et puis, nous avons retrouvé dans les salles du château qui étaient très dégradées, le cabinet des bains. C'est-à-dire qu'il y a une salle où il y avait une baignoire, une salle décorée avec des faux marbres magnifiques. Et puis à l'étage, bien sûr, ce sont les chambres qui elles-mêmes ont été remeublées.
Et ce sera dans le style de ce que l'on voit aujourd'hui ici ?
Alors, ce sera dans un style plus récent, puisque si, au fil des siècles, les différents propriétaires ont su garder l'appartement de Roger de Bussy-Rabutin, celui de son épouse a été transformé plusieurs fois. Et donc, aujourd'hui, ce que nous allons présenter, c'est un décor de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, avec des décors de faux marbre, avec la salle de bain est octogonale, donc avec des boiseries. C'est un décor très riche. Et nous sommes, par exemple, actuellement, donc en février 2023, en train de restaurer les faux marbres. C'est-à-dire que nous avons des décoratrices qui sont en train de sauver les faux marbres qui ont été conservés malgré les siècles et qui sont en train de dessiner, de faire, de peindre les manques. Donc c'est très beau, c'est très impressionnant. Et cette aile Sarcus sera aussi belle que l'aile Rabutin.
Alors, allons à la voir les rois. Ah, c'est impressionnant hein, quand même. À chaque fois que je viens, je suis toujours étonné de la richesse.
Ah oui, c'est incroyable.
C'est incroyable. Et pour les tableaux, vous devez les restaurer, j'imagine, de temps
oui,
en temps.
Oui, oui, oui. Ouais. On en restaure une quazaine par an.
Ouais. Parce qu'il y a eu des problèmes d'hygrométrie, de chaleur, oui, de froid.
Oui. Il y a eu beaucoup. C'est ce qui a justifié le chantier de restauration.
D'accord. C'est-à-dire que
nous avons entamé la restauration du château suite à l'inondation qu'il y a eu en 2018, une sorte de tornade localisée qui a fait couler des torrents de boue dans la cour du château. Et donc ça a déclenché le chantier que nous achevons aujourd'hui. Nous avons pu restaurer un certain nombre de tableaux qui avaient effectivement souffert de l'humidité à ce moment-là. La galerie où nous nous trouvons, c'est une galerie Renaissance. Elle relie l'appartement du maître, l'appartement de Roger de Bussy-Rabutin, à la chapelle, où il allait assister aux offices tous les jours. Et aujourd'hui, elle a été décorée par Bussy-Rabutin, par un certain nombre de portraits encore. Devant nous, ce sont les portraits des ducs de Bourgogne et des duchesses de Bourgogne des Valois, donc les grands ducs de Bourgogne, Philippe le Hardi, Jean sans peur, Charles Téméraire, bien sûr, et Philippe le Bon. Avec leurs épouses. Ces tableaux sont des tableaux qui sont très anciens, copiés pour la galerie des portraits de Versailles, et donc du musée de Louis-Philippe. On est sur des tableaux qui ont valeur d'originaux. Et puis, à côté, c'est la série de tous les rois de France capétiens. Donc on commence à Hugues Capet et on va jusqu'à Charles X.
Très intéressant, notamment pour les enfants. En plus,
particulièrement,
bien évidemment.
Particulièrement intéressant.
Ça fait une belle révision de l'histoire de France.
Voilà, mais par exemple, vous voyez, à chaque fois, comme dans tous les tableaux dans le château, à chaque fois, on a un commentaire. Donc, par exemple, sur Charles le Téméraire, on voit qu'il présente sa généalogie, il présente ses épouses, il présente donc ses principales batailles. Ce fut un prince libéral, appelant les grands hommes auprès de lui, Axelibatus, voilà, justicier humain. Voilà. Et puis, il indique ensuite, bien sûr, la fameuse démesure et le fait qu'il ait mal conduit la guerre, qui ont conduit sa perte. Voilà. Donc, on voit que Bussy-Rabutin est toujours pédagogue. Il veut toujours que ce qu'il indique serve pour mieux comprendre l'histoire de France. Évidemment.
Mais serve à qui ?
Voilà. À qui ? Eh bien, à sa famille, évidemment. Il veut d'abord être un éducateur pour ses fils, ses filles. Et puis, il recevait énormément dans son exil. Donc, il devait passer un certain temps à commenter la généalogie des ducs de Bourgogne, les rois de France et la sienne. Parce qu'en face des ducs de Bourgogne, eh bien, il y a les grands serviteurs du duc de Bourgogne, c'est-à-dire les Rabutins. Les Rabutins que l'on retrouve dans cette galerie de portraits, les hommes et les femmes. Et par exemple, on voit que parmi les femmes de la famille des Rabutins, il y a Jeanne de Chantal, l'institutrice de la communauté religieuse de la Visitation. Voilà. Donc, Sainte Jeanne de Chantal. Voilà. Donc, Bussy-Rabutin n'oublie pas qu'il a dans ses ancêtres cette femme sainte.
Quelle voilà. belle famille.
Voilà. Et puis autour, on voit aussi qu'il a voulu montrer qu'il avait des personnages extraordinaires. Donc, par exemple, Celse Bédigne de Rabutin, qui est tué à la descente des Anglais à l'île de Ré. Là, c'est le père de Madame de Sévigné. Et puis, vous voyez, par exemple, ici, qu'on a on voit un jeune homme en tenue de cour avec une dague à la main et en train de servir une bête sauvage. Voilà. C'est parmi les ancêtres des Rabutins, ce Sébastien de Rabutin qui a, à Fontainebleau, terrassé une bête sauvage, certainement un grand loup, qui terrifiait la cour. Voilà. Donc c'est lui qui l'a fait. Et le roi avait demandé à ce que cette scène soit peinte dans le décor du château de Fontainebleau, et Bussy a envoyé un peintre pour faire une copie.
Et donc là, c'est dans... tel que c'était à l'époque, restauré bien évidemment, mais on imagine que Bussy-Rabutin soit passé ici.
Voilà, cela ressemblait sans doute avec quelques transformations sur les boiseries. Mais donc voilà, Bussy prenait cette galerie pour aller assister aux offices à la chapelle. Le château a peu changé, l'extérieur n'a pas changé du tout, l'intérieur, il y a eu quelques aménagements. C'est ce que nous sommes actuellement en train de faire aussi, quelques aménagements pour l'enrichir, d'abord conserver tout ce qui peut l'être et l'enrichir. Donc, outre la restauration de l'appartement du comte de Sarcuse, donc avec la restitution des chambres, des lits, le remeublement, nous allons également créer dans la galerie Renaissance de l'autre côté un espace d'exposition temporaire pour pouvoir créer des expositions thématiques. Bussy-Rabutin, chef de guerre, par exemple, ou Bussy-Rabutin, courtisan, ou les femmes et l'écriture au grand siècle. Parce que Bussy-Rabutin était en lien permanent avec Mademoiselle de Scudéry, avec Madame de Lafayette. Il écrivait, il leur écrivait très régulièrement, ce qui fait que... Et on a gardé les lettres, bien sûr. Donc, on a moyen d'étudier et de créer des expositions temporaires pour tous ces sujets-là. Donc, le château va être dynamique et vivant.
Ceci me ramène à ce que je disais au début, à savoir qu'il se passe toujours quelque chose au château de Bussy-Rabutin, mais au-delà de toutes les beautés qu'on vient de voir, qu'est-ce qui se passe d'autre à Bussy-Rabutin ?
Nous avons des activités pour tous les publics. À chaque vacances scolaires, nous créons des ateliers pédagogiques, des ateliers découvertes pour les enfants, pour les familles. Pendant l'été, nous accueillons des festivals. Nous organiserons donc des expositions temporaires, je l'expliquais à l'instant. Nous proposons des activités dans le parc, dans les jardins. Il y a de quoi venir à tout moment pour passer un bon moment au château de Bussy-Rabutin.
Et pour le savoir ?
Il faut se connecter au site châteaudebussyrabutin.com et il y a donc sur le site un calendrier des événements. Puis nous avons bien sûr des pages sur les réseaux sociaux.
Très bien, écoutez, merci. Merci François-Xavier de cette bien trop courte visite dans ce lieu vraiment remarquable, beau, élégant, raffiné. Ça, il suffit d'y venir une fois pour avoir envie d'y revenir d'ailleurs. Venir sera peut-être une redécouverte pour certains, mais redécouverte, ce mot est probablement de trop. Car on tire de cette visite une culture, une compréhension artistique et historique qui ne peuvent être comblées en une seule fois. Alors, venez nous y retrouver. Cette émission se termine. Vous retrouverez sur notre site patenvbfc.org la vidéo qui l'accompagne ainsi que la totalité de l'enregistrement audio de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés et maintenant, abandonnant le conte de Bussy-Rabutin, je vous propose de revenir au XXIe siècle pour prendre connaissance des actualités de notre temps.